Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, vous le savez, entre 11h et midi, nous commentons l'actualité, actualité évidemment dominée par la crise du coronavirus. Aujourd'hui, pour débattre et commenter, Florence Berthoud, bonjour. Vous êtes maire du 5e arrondissement de Paris. Il faudrait que vous baissiez un poste, un retour, parce qu'il y a un afro-retour de radio. Il y a un afro-retour, absolument.
Et je n'ai rien. J'ai fait tout comme on m'a dit.
Bon, là, ça va mieux, apparemment. François Coq, vous êtes enseignant, essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour à vous.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Et Éric Vérac, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Merci, bonjour, merci à vous d'être là. Des masques bientôt obligatoires, c'est en tout cas la décision de certaines mairies en France, dont celle de Nice. Le Maroc vient également d'annoncer que le port du masque serait obligatoire. Est-ce que ça va être le cas partout en France? Et puis parlons de ce volte-face du gouvernement. On n'en a pas parlé hier, on devait le faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Quatrième semaine de confinement, vous avez entendu le ministre de la Santé dire qu'on n'était pas sorti encore du confinement. Faut-il le durcir? Je l'évoquais tout à l'heure, la mairie de Paris qui évoque l'idée d'interdire les joggings entre 10h et 19h dans la ville de Paris. Peut-être ce sera le cas dans d'autres villes. Et puis traquer contre le coronavirus, une atteinte aux libertés. On parle de tous ces sujets. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Florence Berthoud, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule qui porte mal son nom. C'est plutôt, je dirais,
une immense tristesse
sur ce qui se passe depuis quand même de très très longs jours dans nos EHPAD. Depuis 15 jours, un peu plus de 15 jours, dans l'EHPAD du 5e arrondissement, qui s'appelle l'EHPAD Jardin des Plantes, sur 98 résidents, 19 personnes sont décédées. Donc on a le sentiment quand même, qu'on n'a pas bien fait les choses depuis de très longs mois dans ces EHPAD. On a peut-être une surpopulation. Vous savez, on a des personnes qui sont très très fragiles, des personnes par exemple atteintes de maladies d'Alzheimer, donc qui bougent beaucoup, et donc il faut leur réserver des plateaux, mais en ayant en même temps une place suffisante. Et puis sans doute que dès le début on n'a pas donné les masques, les gants en nombre suffisant, et que les consignes sanitaires n'étaient pas assez rigoureuses. Quand vous avez des malades en grande situation de fragilité, vous êtes obligé de changer votre blouse à chaque fois, par exemple, ce qui n'est pas fait et n'a pas été fait dans les EHPAD. Donc c'est une immense tristesse. Là, j'ai demandé à ce qu'on teste les soignants et les résidents, ce que l'on va faire, mais ça ne ramènera pas.
Le gouvernement l'a demandé. Oui. Le gouvernement l'a demandé également, et effectivement, on a vu un certain nombre de dysfonctionnements. On en a parlé assez longtemps hier. Il y a cet aspect-là où, visiblement, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas pris les précautions, et on nous a dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, et tout n'allait pas bien dans ces EHPAD. Donc, il est urgent.
Moi, je savais que tout n'allait pas bien. Hein. J'ai tiré depuis de longs mois la sonnette d'alarme, notamment parce qu'on a parfois réduit. Vous savez, on a mutualisé. Faire très attention. On a mutualisé des postes de direction à Paris. Donc, quand on mutualise, ça veut dire en général qu'on supprime, en fait, un poste de direction. Donc j'avais vu par exemple qu'au mois d'août, il y avait une infirmière de permanence certaines nuits pour deux EHPAD. Vous imaginez? Donc ça, c'est pendant l'été. Donc en période de crise,
Oui, donc ce n'est que la conséquence, de toute façon, c'est ce qu'on a évoqué hier, ce n'est que la conséquence d'une situation qui est inadmissible dans des EHPAD où souvent les résidents payent extrêmement cher. On aura certainement l'occasion d'en reparler et d'y revenir. Non, parce qu'il y a des EHPAD publics aussi, mais c'est vrai que la situation dans les EHPAD... Et je ne sais pas ce qu'on peut faire également pour essayer d'ouvrir ces EHPAD tout de même aux familles, parce que mourir du Covid, c'est une chose, mourir de désespoir, c'en est une autre également, et de nombreuses personnes âgées se laissent mourir du fait de ne pas pouvoir voir leurs proches. Je ne sais pas, là aussi, s'il n'y aurait pas eu des choses à faire.
Je pense que ça accélère effectivement la disparition des personnes âgées. J'étais là avant l'émission aux obsèques d'une personne qui est morte dans un EHPAD, que j'avais d'ailleurs fait rentrer dans un EHPAD. Vous savez, c'est terrible parce que c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on sentait que cette personne aussi souffrait énormément de douleur.
Oui. Allez, on continue. C'est hélas, à chaque fois, chacun de vos sujets mériterait qu'on y passe encore plus de temps. Éric Vérac, vous, c'est un coup de cœur?
Oui, c'est un coup de cœur, mais je voudrais quand
ironique,
même
ironique, évidemment. Oui.
Ironique.
Mais oui, je peux vous faire réagir sur les EHPAD, effectivement.
M'associer sur les EHPAD, puisqu'il se trouve que l'EHPAD Jardin des Plantes, je l'ai géré au début de ma vie professionnelle, il y a 30 ans. C'était un EHPAD un peu modèle. Et par ailleurs, je suis quand même, j'ai de nombreuses remontées de la part de gens qui travaillent dans des EHPAD et qui me disent qu'ils ont 2 masques par jour maximum et qu'on leur refuse des arrêts maladie, même lorsqu'ils sont très exposés au coronavirus. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'en effet, les EHPAD sont les grands sacrifiés de la crise du coronavirus. Et ce n'est probablement pas le moment de polémiquer, mais je pense qu'on pourra se donner rendez-vous après cette crise pour faire les comptes et pour chercher les responsabilités, parce qu'il y a, si j'ai bien compris, aujourd'hui des comportements scandaleux dans un certain nombre d'EHPAD, et pour le personnel, et pour les malades.
Mais moi, personnel, oui, absolument.
Et pour le personnel.
Alors juste, peut-être avant de vous redonner la parole, Éric, un tour, Alexandre, François Coq, sur les EHPAD, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs également. François.
Alors oui, bon, cette question est vraiment nous touche au cœur, parce que la manière dont on prend en compte les anciens dans une société en dit beaucoup sur son état d'avancement et sur où elle en est en tant que structure de vie collective. Et effectivement, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, je crois, que nos anciens sont les grands sacrifiés aujourd'hui de cet épisode du coronavirus. Mais une fois encore, j'ai l'impression que tous les mots remontent un petit peu à la même base, c'est-à-dire que l'OMS et toutes celles et tous ceux qui ont été confrontés au virus avant nous ont dit que l'une des tâches premières était de protéger nos soignants pour eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Et on voit bien que dans les EHPAD, le virus est nécessairement importé de l'extérieur, tant par les familles, donc il y a eu un blocage qui a été fait à ce moment-là, et il faut réfléchir à quel lien peut être fait. Je crois que beaucoup est fait dans les EHPAD pour maintenir un lien avec les familles, et c'est une tâche extrêmement compliquée dans la période, mais aussi par les soignants. Et les soignants n'ont pas été protégés pendant des semaines et des semaines. On évoque là le fait qu'il y a 2 masques par jour ou 2 masques par semaine à tel ou tel endroit, mais d'une manière générale, on n'a pas protégé et on n'a pas pu sectoriser aussi au sein des EHPAD entre les gens qui étaient malades ou potentiellement malades et celles et ceux qui étaient encore sains. Et donc il y a un développement qui fait qu'on en arrive à des chiffres absolument ubuesques où on voit que dans des EHPAD il y a 25, 30, 40% des patients qui sont non seulement infectés mais dans certains cas décédés du coronavirus.
Absolument. Un mot, Alexandre Malafaille, et puis on va vite continuer notre tour de table.
De toute façon, le drame de cette maladie, c'est qu'elle frappe très très durement les personnes âgées. Les EHPAD en particulier. De toute façon, cette crise n'a pas été prise en compte au sérieux dès le départ. Donc, on n'a pas donné les bonnes consignes, on n'était de toute façon pas préparé. Tous les messages ont été à un moment donné contredits par les messages d'après. Donc, c'est vrai que vraisemblablement, entre l'absence de moyens et puis le fait qu'on n'a pas donné les bonnes consignes, malheureusement, quantité de gens sont allés dans les EHPAD, quantité de gens ont contaminé, comme on a contaminé le reste de la population, de la même manière. Et évidemment, les personnes âgées, les personnes fragiles, elles payent un tribut extrêmement élevé. Et je me reconnais, ce que je vous avais dit est tout à fait juste, le fait d'avoir, qui plus est, interdit toute forme de visite du jour au lendemain. Enfin, de toute façon, cette absurdité de basculement d'une situation A à une situation B sans aucune transition, sans rien et sans aménagement aucun d'aucune forme, laisse
penser. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le président de la SPA qui expliquait comment lui pouvait mettre en place, alors je compare évidemment pas les animaux aux personnes âgées, mais ce que je veux dire, c'est que pour des animaux, il a lui imaginé une manière de recevoir des gens qui voudraient adopter des animaux dans un endroit particulier, etc. Pourquoi est-ce que pour les personnes âgées, on ne peut pas imaginer d'avoir une pièce, d'avoir un système? Enfin, on trouve des solutions. On voit que la France et les Français sont généreux, sont inventifs en cette période. Que ne trouve-t-on des idées dans les EHPAD pour pouvoir recevoir les familles de façon totalement propre et rassurante? Bon, on en reparlera. Oui.
Vous avez la même problématique pour les parents d'enfants autistes aujourd'hui qui sont face à une situation dramatique d'être obligés de garder chez eux leurs enfants sans.
Oui, sans solution,
la Haute Autorité
sans...
de Santé a décidé. Ouais. Non, mais il faut savoir comment ça s'est passé. Il faut écouter le témoignage de Camille de Peretti qui raconte ça. Ouais. Ils ont reçu le mail le dimanche soir, 15 mars, à 22h, comme quoi finalement leur institut médico-éducatif était fermé le lendemain matin. Et puis c'est
ouais,
tout.
Ouais.
Et puis
on a eu.
Incroyable.
Alors,
incroyable.
continuons notre tour de table. Éric Vérac, je vous avais donné la parole.
Oui, alors, je fais quand même un coup de cœur à la demande de l'Alliance du commerce, qui représente 70 000 commerces en France, et qui dit il ne faut pas se contenter de faire des reports de charges ou des reports d'impôts, il faut les annuler parce que nos adhérents ne seront pas en mesure de payer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la mesure de ce qu'est la difficulté des entreprises face à la vague de crack économique qui arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut en effet qu'on se pose des vraies questions, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures qui vont soulager un certain nombre de travailleurs indépendants ou d'entreprises et qui vont leur permettre d'envisager un peu plus sereinement, ne serait-ce que la fin de ce trimestre, puisque je pense que beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui en train de se dire qu'elles ne finiront pas le trimestre et nous allons vivre un vrai carnage social si ça continue.
Absolument. Je crois que c'est assez compliqué pour les entreprises aujourd'hui, même qui ont parfois affaire, qui demandent des reports et des choses comme ça. Tout n'est pas accepté. Il y a des sociétés qui sont dans des situations, vous l'avez dit, dramatiques. François Coq, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, vous ?
Ben écoutez, on nous parle beaucoup du monde d'après et je constate que on convoque à la barre ceux qui sont les responsables du monde d'avant et qui restent enfermés dans la pensée du monde d'avant. Et c'est tout particulièrement vrai sur la question de la soumission à l'Union européenne. Moi, j'ai vu passer il y a deux jours une tribune dans le journal Le Figaro qui était signée par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et qui était co-signée avec Wolfgang Schäuble, vous savez, le président du Bundestag allemand, mais qui est l'ancien ministre des Finances allemand, qui est le chantre en Europe de l'orthodoxie budgétaire, celle qui a conduit à toutes les coupes dans les budgets nationaux et notamment dans les budgets publics et en particulier celui de la santé. Et tous ces gens-là, ces deux-là, nous disaient qu'il fallait plus d'intégration financière au niveau européen. Et de la même manière, j'entendais Emmanuel Macron il y a tout juste une semaine, quand il a été visiter une usine de masques dans la Sarthe, nous dire qu'il faudrait plus de souveraineté nationale et européenne. Et européenne, parce que la grande logique d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, c'est de dire que la souveraineté européenne va se superposer, mais en se superposant, on va englober et va effacer la souveraineté nationale, parce qu'il voulait faire des géants au niveau européen pour pouvoir mieux les lancer dans la mondialisation. Eh ben, l'Union européenne, on a vu dans cette crise, que dans cette crise sanitaire et cette crise qui est désormais une crise politique aussi, que l'Union européenne est la grande inutile et qu'elle est même devenue nocive. Par exemple, il y a eu un grand plan de commande de masques. On nous a dit, il faut peut-être pas commander des masques tout de suite dans chaque pays. On va faire un grand plan de commande de masques au début du mois de mars au niveau européen. Il n'y a pas un masque qui est arrivé au niveau européen. Et au contraire de ça, on a continué à tirer à boulet rouge sur l'Italie.
Soi, ouais.
Et on a vu que quand l'Espagne et l'Italie et aussi la France demandent d'émettre des corona bonds pour mutualiser la dette, ben l'Allemagne et d'autres pays continuent à s'y opposer. Autrement dit, l'Union européenne est toujours dans sa même logique et les mêmes qui nous ont conduits là prétendent l'appeler encore à la rescousse. Je crois que cela ne tire aucune leçon de la crise d'aujourd'hui.
Très bien. Alors, on va marquer une petite pause et Alexandre Malafaye, on va revenir avec vous pour votre coup de gueule, je crois. Et puis, on parlera effectivement de cette obligation de porter des masques dans certaines communes et puis surtout du revirement. Le masque est inutile, le masque devient utile. On ne sait plus très bien où on en est. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec Éric Vérac, Alexandre Malafaye, François Coq et Florence Berthoux. Alexandre Malafaye, c'est un coup de gueule, c'est ça ?
Oui, c'est un coup de gueule non pas sur la chloroquine, mais sur la façon dont les tests sont menés sur la chloroquine. Moi, je ne sais pas si la chloroquine est la solution, si c'est un bon médicament, mais j'aimerais bien le savoir. Et ce que j'observe maintenant depuis un certain nombre de semaines, c'est qu'on fait tout pour qu'on ne sache jamais en France si la chloroquine aurait pu être ou pourrait être un bon médicament pour prévenir le développement de la maladie. Je m'explique. Aujourd'hui, on donne la chloroquine aux patients en milieu hospitalier et uniquement dans une phase plutôt aiguë de la maladie. Or, on sait de manière claire aujourd'hui et certaine que la chloroquine à ce niveau-là ne marche pas. Et c'est tout le modèle de l'essai aujourd'hui qui est développé dans le cadre du plan Discovery, où on va au-delà de ce que fait le professeur Holt à Marseille, on se donne effectivement un échantillon plus large, mais un échantillon qui n'est pas le bon. Le bon échantillon pour avoir une fois pour toutes la réponse à la question de la chloroquine, c'est de prendre 1000 malades ou 500 malades ou ce que fait le professeur Raoult à Marseille, un échantillon représentatif qui présente les premiers symptômes de maladie et à qui on donne la chloroquine. Son objectif, associé à un antibiotique, tout le monde le dit, le répète, un nombre de ministres prennent position, de gens, de personnalités, de chercheurs disent c'est une chance que ça marche, c'est au début de la maladie, pour justement empêcher l'attaque virale, la montée en phase, la charge virale en fait, et faire en sorte que la maladie ne dégénère pas et que l'organisme ne se dérègle pas, parce que c'est ça qui provoque le virus, c'est un dérèglement du comportement de l'organisme avec ses défenses immunitaires. Et donc c'est ça qu'il faudrait essayer, pour qu'on sache. Et en fait, je pense malheureusement que tous ceux qui ont pris des positions anti-Raoult, anti-chloroquine dès le départ, au nom du principe de précaution et au nom d'autres, on va dire, d'autres considérations qui sont moins nobles que celles-là, pour pas dire autre chose, eh bien je pense que ces gens aujourd'hui sont enferrés dans une posture qui essaye d'étouffer la possibilité que ça puisse être la solution, parce qu'ils ont pris une position qui est intenable. Et à la fin de la foire,
je pense qu'on peut vous renvoyer exactement les mêmes arguments, hein, cher Alexandre Malafaille. Je pense qu'on peut vous dire exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur d'abord les gens qui commencent en disant je ne suis pas médecin ou je ne connais rien à la chloroquine, mais je pense que c'est ce qui marche. On n'a pas de preuve, on n'a aucune preuve que ce médicament.
Fabriquons ces preuves. Prenons un bon échantillon. Moi, quand j'écoute Philippe Douste-Blazy, lui, il est médecin. Quand j'entends un nombre de chercheurs.
Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est quoi
pardonnez-moi, Discovery, aujourd'hui, l'échantillonnage sur Discovery porte sur des gens qui sont en phase très avancée. Et ça ne marche pas à ce niveau-là.
Mais il y a des essais cliniques.
Florence Berthoud.
Il y a plusieurs essais cliniques. Franchement, enfin, moi, je suis. Je ne suis ni pour ni anti-chloroquine.
Moi non plus, oui.
Je retiens simplement quand même ce mot de Roselyne Bachelot qui est plein de bon sens, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous les médicaments que nous utilisons, y compris et fort heureusement ceux qui nous guérissent, ce sont à l'origine des poisons. Bon. Donc,
la chloroquine, Madame le maire, faut pas exagérer. Hein. Sous contrôle médical, la chloroquine ne tue personne.
C'est une réalité. C'est une réalité médicale.
Il y a eu des morts. Pardon.
Sous contrôle médical.
C'est des poisons qui sont évidemment faits pour. Mais si c'était des produits tout à fait anodins, ils ne feraient pas effet. Bon. Donc,
on ne fait rien. Vous avez raison. Et il faut effectivement continuer comme ça. Surtout, on ne soigne pas les gens et on attend de voir ce qui meurt.
Il était utilisé comme antipaludéen.
Vous serez responsable des coupables, madame.
Sincèrement.
Responsable des coupables.
Enfin, Alexandre, calmez-vous. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous serez responsable et coupable. Qu'est-ce que vous connaissez à la chloroquine? Qu'est-ce que j'y connais? Qu'est-ce qu'on y connaît?
J'attends qu'on fasse un test satisfaisant. On ne fait pas un test satisfaisant aujourd'hui. Voilà.
Mais il y a plein, pardonnez-moi, mais il y a des médecins qui prescrivent aujourd'hui de la chloroquine.
En médecine de ville? En médecine de ville, madame le maire?
Il y en a qui l'ont prescrit.
Vous avez un décret qui interdit aux pharmacies de délivrer la chloroquine dans le cadre de coronavirus.
On le prescrit.
Mais dans quel cas? Alors je sais pas. Peut-être que.
Il y a des
que Éric Vérag. Oui.
Oui.
Éric Vérag.
Il faut pas non plus qu'on dise n'importe quoi. Il y a des excès cliniques aujourd'hui.
Il est vrai que le décret qui est sorti sur l'administration de la chloroquine la limite au cas grave et que la position du professeur Raoult est de dire que lorsque le cas est grave, elle ne sert plus à rien. Que la chloroquine n'est utile qu'au début de la maladie, en début de traitement. Et qu'il y a aujourd'hui une situation inexpliquée, c'est on ne sait pas pourquoi, le Haut Conseil de Santé, l'Haute Autorité de Santé, a délivré un avis indiquant qu'il fallait utiliser la chloroquine dans le cas que précisément le professeur Raoult exclut. Alors je peux entendre que certains se disent que cette décision ou cette recommandation a été émise pour torpiller l'essai de la chloroquine et peut-être pour éventuellement donner un avantage à d'autres types de traitements. Mais le problème là-dessus, moi je ne prends pas parti, je constate juste qu'il y a une opacité de la décision publique. et que ces décisions tombent un jour au journal officiel, ne sont pas forcément conformes à ce qui a été dit la veille par le ministre, puisque ça a été le cas sur ce décret sur la chloroquine, et que donc aujourd'hui, cette opacité, elle nourrit de nombreux fantasmes ou de nombreux doutes, une vraie suspicion. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait s'épargner cette suspicion en étant transparent sur les raisons pour lesquelles il prend telle ou telle option. On en reparlera
y a une c'est exactement le même sujet. Alexandre Malafa, il y a une étude à Angers en ce moment, 300 personnes malades volontaires qui participent à l'étude e-Covid, qui doit prouver ou non l'efficacité du traitement et qui est administrée dès le départ. Et il y a une publication qui a été faite sur le protocole retenu. Donc c'est une étude qui est en train de tester ça.
C'est exactement ce que fait le professeur Raoult depuis le départ.
Oui, professeur Raoult, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir respecté,
de ne pas avoir les
essais cliniques de manière, on va dire, conventionnelle. C'est-à-dire que si vous choisissez vos malades et que vous en tirez, vous dites voilà, je l'ai donné à 30 personnes et elles ont guéri, vous n'avez pas de comparatif puisque le coronavirus, dans la grande majorité des cas, au bout d'une semaine, on en guérit. Donc, s'il n'y a pas de test comparatif, quelle est la valeur scientifique ? C'est ça la question.
La valeur scientifique aujourd'hui, il faut la relativiser au regard du risque sanitaire. Et ne perdons pas de vue que si nous avions accéléré sur ce sujet-là, et peut-être sur d'autres d'ailleurs, cette phase-là, parce que ce qui se passe à Angers, c'est très bien, mais ça aurait pu être amorcé il y a 6 semaines. Voilà, donc on a perdu 6 semaines, et donc accessoirement, ça coûte très cher en vie humaine. Et il y a un deuxième corollaire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on va peut-être parler dans cette émission à un moment donné du masque, mais tout ça a aussi un autre objectif, c'est aussi de sortir de cette période-là. Et il y a un enjeu majeur pour que le pays ne se mette pas 10 ans à s'en relever, c'est le déconfinement. Si demain on pouvait avoir un traitement qui permet d'éviter, peut-être la chloroquine, peut-être autre chose, mais qu'on le valide, qui permet d'éviter que la maladie ne dégénère et donc de la juguler lorsqu'elle arrive, combiné aux autres mesures barrières, on pourrait effectivement déconfiner ce pays dans des conditions.
C'est un peu une Et s'il y avait du soleil en été.
Il faut avancer plus vite, pardonnez-moi.
Avancer plus vite, vous ne croyez pas que tous les labos sont en train de bosser comme des malades, que tous les centres sont en train de travailler pour trouver?
Je pense que sur la chloroquine, on a 6 semaines de retard, oui.
Je pense que lancer comme ça, vous êtes un spécialiste, que la chloroquine est le médicament miracle, moi, très franchement, me gêne, pour ne pas dire ça me choque. On n'a jamais vu un système de santé digne de ce nom qui prescrit à grande échelle un médicament sans qu'il y ait eu des essais cliniques préalable. Bon, donc on nous objecte, mais c'est un antipaludéen qui a été utilisé des milliers de fois. Bien sûr, moi-même j'en ai utilisé peut-être comme vous, mais c'est dans des cas très particuliers là qu'on s'apprête à l'utiliser.
Bien, Madame le maire, j'aimerais vous poser quelque chose. Non mais Madame le maire, j'aimerais vous poser quelque chose.
Alors laissez-la terminer, Alexandre.
Je pense qu'il y a quand même un principe vraiment général et sur lequel est fondée notre médecine, qui est une médecine de qualité, c'est qu'on ne lance pas des médicaments sans qu'il y ait eu des essais cliniques. J'ai installé dans ma mairie un centre ambulatoire Covid-19. J'écoute ce que disent tous les praticiens qui viennent. Eh bien, écoutez, Mezzo Voce, ils sont quand même très gênés par ce qu'a fait le professeur Raoult. Car ils nous disent que c'est la porte ouverte, évidemment, à tous les risques. Alors, peut-être qu'on aurait dû s'y mettre plus tôt. Peut-être que, comme vous le disiez, pour le coup, justement, on manque de transparence dans la communication pour dire voici pourquoi on a fait des réserves, ça je l'entends, mais on ne peut pas décréter à brûle pour point que le médicament miracle du directeur de l'IHU Méditerranée Infection est le remède miracle. Ça me paraît, moi.
Madame le maire, je n'ai pas décrété que c'était un médicament miracle. Je n'ai absolument pas dit ça. Vous déformez totalement ce que je dis. Je rappelle, en revanche, qu'il y a un principe général, c'est que pour l'instant, il n'y a rien comme principe de traitement et que des gens meurent et que le pays est bloqué parce qu'on ne sait pas faire autrement que profiler le pays.
Voilà.
Madame, je vous ai laissé parler, donc maintenant à mon tour. Ouais. Voilà. Ouais. Donc,
elle s'appelle Madame Berthoud, hein. Madame Le Maire, elle n'est pas la femme de Bruno Le Maire. Hein.
C'est Madame Berthoud. Madame Le Maire, je lui confère du respect lié à sa fonction. Ouais, voilà. Et donc, je dis simplement que, voilà, moi, je sais simplement que je pense qu'il y a énormément de gens qui auraient aimé, face à cette maladie et à l'angoisse qu'elle fait naître quand on commence à être porteur des symptômes et au risque, faut imaginer quand même d'être confiné chez soi, d'être porteur, et on vous dit, bah attendez, et vous avez 4 chances sur 5 que ça aille, mais il y a 8 chances sur 5 que ça se passe pas bien, et il y a 5% de chances que vous filiez aux urgences. Voilà, c'est ça la réalité.
Il y a une chance sur 5 que la chloroquine ne fonctionne pas non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'équation miracle. Regardez le sida, ce qui s'est passé, le médicament qui était sorti, tous ces espoirs. C'est-à-dire que les médicaments miracles n'existent pas. Et le monde entier, effectivement, est confiné. Donc, c'est pas la France qui est en train de comploter pour que la chloroquine ne sorte pas parce que des laboratoires veulent vendre un médicament plus cher. Enfin, je trouve que cette histoire de chloroquine est complètement démente. Et hier, le sondage du Parisien qui dit les Français, 58% des Français pensent que la chloroquine est efficace, mais pense quoi ? Je veux dire, on est dans la croyance. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe. On n'a aucune preuve que la chloroquine fonctionne aujourd'hui très clairement d'un point de vue médical.
Non, mais il y a des éléments qui montrent que ce dont on peut être sûr, c'est qu'elle est moins mortelle que le coronavirus et que aujourd'hui le choix. Aujourd'hui, il est attesté que s'il y a des effets secondaires, ils sont très marginaux par rapport au risque qu'on encourt lorsque on a le coronavirus. Et ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est que moi, je comprends les précautions, notamment que le gouvernement peut prendre en disant on ne veut pas se jeter bille en tête sur un médicament qui n'a pas été testé selon des standards internationaux. La particularité, c'est que la chloroquine n'est pas un nouveau médicament. C'est un médicament qui existe depuis des dizaines d'années et dont les effets secondaires sont totalement connus et identifiés. On sait que notamment en cas de problème cardiaque, ça peut créer des complications mortelles, mais c'est un phénomène marginal. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en effet, on mette sur le même pied la chloroquine, qui est un médicament connu et dont les effets sont connus, avec des médicaments qui n'ont jamais été testés, qui ne sont même pas encore créés, comme le remdesivir de Gilead. Oui, qui n'existe pas encore. D'ailleurs, les tests Discovery, je pense la vraie information sur les essais cliniques Discovery, c'est qu'ils sont pour l'instant interrompus, faute de disponibilité du remdesivir fabriqué par Gilead. Et donc aujourd'hui, les essais Discovery n'ont pas lieu. C'est ça la vraie information qui est à peu près passée inaperçue. Oui. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on promet aux gens, sous prétexte qu'on ne voudrait pas qu'ils meurent de la chloroquine, on les promet à une mort certaine ou pas ? C'est ça le sujet. Et le sujet, c'est pas zéro ou un. Le sujet, c'est une solution imparfaite face à une autre solution imparfaite.
Oui. Alors on va marquer une pause.
Moi, patient, laissez-moi prendre mes risques. C'est que moi, je préférais aujourd'hui prendre le risque d'avoir un traitement qui peut-être peut baisser la charge virale, parce que c'est ça que fait ce traitement-là, qu'on me laisse prendre mes responsabilités, parce que sinon, la responsabilité que l'État me demande d'assumer, elle risque de me tuer. Donc moi, je préfère entre deux mots, je préfère choisir celle-là. Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler des masques et du confinement. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous, nous débattons jusqu'à midi, 0826-300-300, également le Facebook de Sud Radio, avec Éric Vérac, Alexandre Malafaille, François Coq, Florence Berthoud. Un petit mot encore sur la chloroquine, c'est un débat passionnant et intéressant. Juste un mot, c'est que les Suédois ont arrêté hier de traiter à la chloroquine, ayant constaté qu'il y avait des effets secondaires très graves. Donc Alexandre Malafaille, si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais c'est vrai que le médecin, le chef du département des maladies infectieuses de Göteborg dit « Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le traitement fasse plus de mal que de bien ». Donc dans ces cas-là, je ne sais pas ce qu'on fait, effectivement. Y a pas de... Et ce qu'évoquait également Éric Vérac tout à l'heure, c'est qu'il y a un autre labo, Gilead, qui est en train de tester des choses. Ils le font dans le silence, ils travaillent et ils attendent d'avoir leur test. Je pense que la com est ce qu'il y a peut-être de pire en matière de santé.
Il y a aussi, on avance beaucoup sur les transferts de plasma, des malades qui sont guéris. Oui. Qui pourrait être une solution extrêmement sérieuse. Il y a, même si c'est sur un autre registre, des recherches, vous avez vu, sur ce fameux ver marin qui permet de mieux oxygéner les malades. Donc, il n'y a pas une seule réponse. Et s'il y a une réponse, chloroquine ou pas, en tout cas, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne peut pas se dispenser d'essais cliniques, me semble-t-il. Enfin, je pense que c'est...
Allez, on va passer au masque. Là aussi, sujet bien polémique s'il en est. L'Académie de médecine donc a préconisé le port d'une protection pour l'ensemble de la population et le gouvernement, d'un seul coup, dit que, bah oui, finalement, les masques, c'est peut-être utile. François Coq, vous aviez commencé à l'évoquer dans notre tour de table tout à l'heure.
Oui, cette question des masques relève ce qui est la politique du gouvernement depuis le début, une politique de communication de la stratégie de la pénurie. Les décisions ne sont pas prises en fonction de ce qui devrait être fait au regard de la situation sanitaire, mais uniquement pour dissimuler l'incurie de toutes les politiques de ce gouvernement et de ses prédécesseurs. Voilà. Donc, à chaque fois, on nous a dit, par exemple, c'était le cas pour les tests, mais maintenant, ça a été le cas pour les masques. Il n'y a pas besoin de tests, tout simplement parce qu'on n'avait pas de tests. Il n'y a pas besoin de masques, parce qu'on n'avait pas de masques. Et comme la réalité rattrape toutes celles et tous ceux qui ne font que de la communication, eh bien si, il y a besoin de tests. C'est une manière de ralentir l'épidémie et de se projeter vers la sortie de crise. Il y a besoin de masques, pas simplement pour la sortie d'épidémie, mais il y en aurait eu besoin aussi en amont. Et donc, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit au fur et à mesure qu'ils sont rattrapés par la réalité. Moi, je trouve tout cela extrêmement choquant, d'autant qu'on renvoie aujourd'hui et on abandonne les gens à leur propre sort. Je trouve très choquant aujourd'hui que l'État mette en ligne des tutos pour que les gens se fassent leur propre masque, tout simplement parce que lui n'est pas capable d'en produire ou d'en importer. La seule chose qu'on a, c'est des promesses. On nous a promis 50 millions de masques, 1 milliard la semaine suivante, 2 milliards il y a 2 jours.
Qui arriveront fin juin, on a appris ce matin.
Qui arriveront fin juin, disait un ministre ce matin. Monsieur Véran était incapable de dire combien on recevait de masques chaque semaine. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'en reçoit pas assez. On se fait balader sur cette question. Et celles et ceux qui sont les responsables sont celles et ceux qui sont encore aux affaires. Moi, je rappelle que, par exemple, il y avait une usine de masques, Perian, en Bretagne, qui produisait 4000 masques par heure, c'est-à-dire 20 millions de masques par mois. L'État a arrêté ses commandes en 2011, quand le ministère a changé de doctrine en la matière. Et celles et ceux qui étaient les conseillers de la ministre de l'époque, c'était messieurs Attal, Griveaux, Salomon, Véran qui a voté tous les budgets, c'est toutes celles et tous ceux qui sont dans la gestion de crise aujourd'hui, et à un moment donné, il faudra bien que tout cela, on les passe par pertes et profits.
Alors, qui veut réagir ?
Moi, je veux bien.
Florence Berthoux ?
Oui, je veux bien sur cette question de masque. Évidemment, on voit qu'il y a des revirements successifs, tous ces revirements successifs d'ailleurs qui sont autant le fait d'autorités publiques que d'autorités sanitaires, elles doivent vraiment nous inciter à beaucoup de modestie. Vous soufflez peut-être d'un chef de service des maladies infectieuses d'un grand hôpital parisien dont je n'aurai pas la cruauté de rappeler le nom, un monsieur au demeurant qui est très très compétent dans son travail, mais qui disait le virus n'est pas particulièrement pathogène, il y a encore 4 semaines, il va passer en douceur. On a entendu un porte-parole des urgentistes dire que finalement une épidémie saisonnière de grippe, ça faisait 5000 morts, là oui il y avait des morts, mais le virus était relativement peu mortel. Et on a eu la même chose sur ces questions de masques, ça n'excuse absolument rien, vous l'avez rappelé, il y a eu un changement de doctrine extrêmement préjudiciable en 2011, et là on n'a plus aucune autosuffisance et on est dépendant. Il y a 4 usines en France, dont d'ailleurs je crois 3 françaises et une canadienne, une succursale canadienne, qui produisent des masques. Ils ont multiplié depuis le début de la pandémie par 3 la production de masques. Mais en la multipliant par 3, ils sont arrivés à 40 millions de masques par mois. 40 millions de masques par mois, alors qu'il en faut au moins 40 millions par semaine pour les seuls soignants. Et s'il fallait que tous les Français aient un masque dans les conditions qui sont préconisées par l'ARS, la Direction Générale de la Santé, etc., il faudrait sans doute en produire entre 5 et 10 fois plus par semaine. Vous vous rendez compte ? Oui. Ça veut dire que même les chiffres qu'on évoque, on est très 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 loin du compte. Alors au début de la crise, il y avait 70% des masques qui venaient de Chine et qui venaient de Taïwan. Aujourd'hui, ça s'est un peu réduit, mais là, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire sur le fait qu'il faut que la France redevienne autosuffisante sur cette production de masques. Oui. Je fais partie des personnes qui ont d'ailleurs acheté des masques, non pas pour moi, surtout pas, mais pour les donner aux soignants et les donner aux commerçants. Très franchement, je suis pas sûre que ce sera non plus la panacée si à côté de ça, on déconfine à tout va et on respecte pas les autres règles sanitaires.
Oui, alors... Alexandre Malafaille, sur cette affaire de masque. Je voulais juste, avant de vous donner la parole, faire un rectificatif. Régis de Castelnau qui a énoncé quelque chose de faux en disant que la Cour des comptes avait recommandé la destruction des masques stockés. La Cour des comptes, au contraire, c'est ce qu'affirment les sages, au contraire, avait justement demandé à ce que cette constitution des masques avait assuré que c'était une bonne chose. Donc, c'est une information qui était erronée. Et donc, je rectifie ici ce qui avait été dit il y a quelques jours par Régis de Castelnau. Et au contraire, la Cour des comptes avait demandé à ce que la constitution des stocks de masques, c'était un rapport de 2011, soit continuée et soit constituée, en particulier à l'époque de H1N1. Donc, c'était une info erronée. Voilà, dont acte. Alexandre Malafaille, sur ce volte-face sur les masques, ils sont où ces masques?
Je profite de la séquence rectification pour dire que c'est des hôpitaux, pas tous les hôpitaux. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais c'est pas la Suède en tant que pays qui a décidé. C'est localisé dans certains hôpitaux. Point. Écoutez, sur les masques, de toute façon, sur toute la gestion de cette crise, tout est trop tard. À chaque fois, tout est précipité et tout est inaudible. Enfin, je renvoie toujours, c'est assez extraordinaire, le souvenir de Sibeth Ndiaye qui nous explique que porter un masque, c'est très compliqué, qu'elle-même ne sait pas porter un masque.
On est trop con pour le faire.
Voilà, ça, c'est assez fascinant. Tout ça était juste il y a un mois. C'est trop tard avec les masques. C'est trop tard qu'on n'ait pas, là aussi, eu du bon sens pour dire, évidemment, dans une phase de développement épidémique, chacun projette quelque chose qui peut se retrouver sur des substances, sur des comptoirs, sur des tapis de caisse de supermarché, un peu partout. On aurait dû dès le départ avoir cette logique de prévention et d'encouragement, puisque maintenant, on nous disait, on nous a dit c'est inutile parce qu'on n'en a pas, et maintenant on nous dit c'est utile, on n'en a toujours pas, mais on peut en faire. C'est-à-dire, là aussi, une injonction contradictoire à ce niveau-là est assez fascinante. J'entendais Mme Hidalgo ce matin qui annonçait qu'elle demandait, maintenant on a trouvé une solution à des entreprises solidaires de fabriquer 2 millions de masques pour les Parisiens. On trouve des solutions, mais il y a un mois, on n'avait pas de solution. Et c'est vrai que là encore, dans une logique de prévention, bien sûr que porter des masques, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il faut les porter tout le temps? Est-ce qu'il faut les porter pour aller se promener dans la rue? On peut en débattre. Est-ce qu'il faut, comment on fait quand on va courir? C'est vrai que moi, je suis sorti comme tout le monde ces derniers jours pour aller un peu m'aérer. Je croise des gens qui courent et qui transpirent et qui soufflent leur souffle. Je ne sais pas si c'est effectivement une bonne façon de pas. Mais en plus, on ne sait pas exactement ce qui va mettre ce virus. Quel est son degré de propagation aéroportée? Est-ce que c'est le postillon? Il y a une étude américaine qui dit qu'aujourd'hui, a priori, il est transmissible par voie aérienne de manière beaucoup plus facile. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est sans doute une bonne chose aujourd'hui de recommander le port du masque. Mais c'est trop tard.
Oui. Alors, qui en a pas entendu, Eric Vérag?
Oui. Moi, je veux juste dire une chose. C'est qu'en fait, j'ai eu la sagesse de ne pas m'informer auprès du gouvernement français. Et d'écouter des membres de ma famille qui sont médecins dans des hôpitaux canadiens et pour qui ça ne fait aucun doute depuis le début de la crise, qui est qu'il faut sortir avec un masque à toute occasion. Donc moi, ça fait 3 semaines que je sors quotidiennement avec un masque en ayant la parfaite certitude que c'est la seule solution reconnue scientifiquement pour réellement endiguer l'épidémie, la propagation de l'épidémie. Il n'y a qu'en France où il y a eu une information officielle tendant à discréditer le port du masque, indiquant même aux gens qu'il ne fallait surtout pas avoir de masque, qu'il fallait les laisser aux soignants. Ce sera une faute qui sera retenue. Alors aujourd'hui, ça fait débat parce qu'on est dans le brouhaha, dans l'écume des jours, mais dans 2 ans, dans 3 ans, on se demandera comment on a pu avoir des gouvernants qui ont dit à leur peuple, à leurs citoyens, ne portez pas de masque et laissez-les aux soignants. Parce que c'est une faute qui a favorisé la propagation de l'épidémie et qui explique très largement la lenteur des effets du confinement. Tout le monde portera aujourd'hui, on n'aurait pas ce problème.
Mais on n'a pas été les seuls aux États-Unis, en Espagne, en Italie, ça a été la même chose, non?
Je pense que tous les pays industrialisés qui ont eu l'illusion qu'ils étaient protégés contre les risques de toutes sortes, et notamment les risques sanitaires, ont oublié de constituer des stocks de masques et ont fait oublier cette faute en ne recommandant pas le port du masque. Mais en France, le gouvernement a eu une attitude différente, c'est qu'il a recommandé de ne pas porter de masque. Et ça, pour dissimuler sa faute. Et ça, ce sera, je pense, très largement retenu contre lui dans les mois qui viennent.
Oui. Ordre contre ordre, je vois un internaute qui dit on nous annonce donc que le jogging va être interdit et tous les psys, médecins se sont succédés pour nous dire que le sport était important et qu'il fallait pour éviter des éventuels traumatismes liés au confinement sortir. Là encore, on change de doctrine, c'est un petit peu fastigant, non ? Et incompréhensible.
La communication du gouvernement dans cette affaire est cataclysmique. Dans tous les cas, depuis le début, ce gouvernement porte une communication qui est clivante, qui dresse les gens les uns contre les autres, chloroquine, pas chloroquine, masque, pas masque, etc. Et depuis le début, on a le sentiment que le gouvernement court après la crise et ne parvient pas à la rattraper. Et en effet, envoie en permanence des signaux qui font que les gens ne peuvent plus lui porter de crédit.
François Coq.
Non, je voulais simplement dire que c'est vrai qu'il y a cette espèce de phénomène de surenchère qui est incroyable. On passe d'un extrême à l'autre en 24 heures. Rappelez-vous comment Édouard Philippe a confiné la France à 20 heures et à 20 minuits, on fermait les cafés et les restaurants. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'on nous dit c'est dramatique, tout ça va très mal. Et par exemple, vous prenez la question de l'utilisation des labos vétérinaires pour procéder à des tests massifs. Et c'est toujours pas actif. Ça fait plus d'un mois.
Si ça a été acté hier. Hier ils ont reçu l'autorisation.
Je crois qu'il manque encore une autorisation à vérifier. Mais en tout cas, on a mis un mois et ça fait un mois que les labos disent nous on peut réaliser jusqu'à 500 000 tests par semaine. Et on en est toujours là. C'est pour ça que je dis pas, je reviens pas sur le débat sur la chloroquine, mais je dis on a toujours entre 4 et 6 semaines de retard par rapport à ce qu'on aurait pu faire pour aller chercher la vérité ou pour mettre en place les bonnes solutions. C'est ça qui est évidemment critiquable.
François Coq.
Ouais, la seule chose qui fonctionne encore dans ce pays, c'est les gens qui le mettent en œuvre par eux-mêmes et tout ce qui vient aujourd'hui de l'État, de la structure, de la technostructure aujourd'hui est sans prise, sans effet et par moments nocif. Et sur les masques, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on en est réduit à devoir se fabriquer nous-mêmes nos propres masques parce que l'État est incapable, a été incapable en temps et en heure, mais est encore incapable aujourd'hui de mettre en œuvre le nécessaire pour en fournir. Et à la base de tout ça, il y a quand même un problème. Je vous rappelle que Monsieur Macron, depuis 2 ans et demi nous bassine avec sa question de la vérité. Il a érigé la vérité en principe intangible, en socle comme une croyance. Sauf que le problème qu'il y a dans cette crise depuis le début, c'est que c'est justement qu'il y a eu un détournement de la vérité sur la question des masques, sur la question des tests, et tout ça a induit derrière des politiques qui ont été contre-productives et qui ont été à l'encontre de l'intérêt des gens et à l'encontre de l'intérêt général. Autrement dit, il y a eu une faillite sur ce qui était justement la vérité, ce qui était le bon sens, ce qui était la réalité matérielle des choses. On nous a menés en bateau depuis le début, et il est clair que celles et ceux qui sont responsables de ça devront rendre des comptes, mais pas juste dans 2 ou 3 ans. Moi, j'appelle à ce que les comptes soient remis à zéro dès la sortie de confinement en fonction des mesures sanitaires qui vont être prises. Et de ce point de vue-là, je mets en garde sur le fait que le gouvernement va vouloir instrumentaliser aussi la sortie de confinement, pas simplement sur des raisons sanitaires, mais il va vouloir la définir aussi pour des raisons politiques, pour éviter cette éruption populaire et cette demande de...
Alors, on va y revenir dans un instant. On marque une petite pause, 0826 300 300. Vos réactions sur Sud Radio, on vous attend, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et c'est André Bercoff qui sera avec vous tout de suite après. Nous parlions des masques, je crois Florence Berthoud que vous vouliez réagir à ce que disaient François Coq et Alexandre Malafaye sur la mauvaise gestion de l'État.
Je trouve qu'il est quand même un peu facile de pratiquer la mise au pilori générale. Bon, il y a des choses qui vont pas, c'est une réalité, mais c'est quand même, il faut avoir l'humilité de le rappeler, une crise sanitaire sans précédent. Il n'y a pas d'un côté un gouvernement qui serait affreux, qui instrumentaliserait la crise, qui n'aurait rien vu, rien prédit, et de l'autre, les sachants qui, eux, auraient dit et on n'aurait pas suivi. Moi, je vous invite vraiment à relire ce qu'ont dit d'éminents spécialistes de virologie, de maladies infectieuses, etc., en France. Tous ces 2 derniers mois. tous ces deux derniers mois. Bon, est-ce qu'il y a un pays qui, aujourd'hui, s'en sort mieux que les autres?
Oui, l'Allemagne.
L'Allemagne,
la Corée du Sud.
Effectivement.
L'Autriche.
L'Allemagne, c'est tout à fait vrai.
La Corée du Sud, Taïwan.
S'en sortent mieux. La Corée du Sud, Taïwan, qui sont des grands modèles de démocratie. La Chine, on saura peut-être un jour ce qui s'est réellement passé. Je ne crois pas à la fable, pas un quart de seconde à la fable qu'on nous a racontée. Bon, donc, j'entends ce qui se dit sur les masques. Les masques ne sont pas...
Mais est-ce qu'il y a d'autres pays, Florence Berthoud, c'est la question que posait Alexandre Malafaï, est-ce qu'il y a d'autres pays où on a asséné, comme on l'a fait en France, que les masques n'étaient pas efficaces et ne servaient à rien?
Alors là, pour le coup, sur les masques, je pense que c'est une erreur, et on a dit ça parce que on n'arrivait pas à fournir des masques aux soignants.
Oui, c'est ça. Donc, mensonge.
Enfin, c'est une grave faute.
Très franchement. Maintenant, attention aux masques qui ne sont pas non plus panacées. La transmission du virus, moi je lis tous les jours des bons papiers comme vous, on nous explique qu'il faut faire très attention à ses mains, que c'est surtout par les mains, dans les trois quarts des cas,
oui,
que
le virus... Parce qu'on les porte au visage.
Pardon ?
Parce qu'on les porte au visage, donc c'est par la bouche, par les muqueuses en fait, que le virus se transmet.
Nous mangeons, nous respirons, nous parlons dans un combiné téléphonique a priori sans masque. C'est compliqué de parler avec le masque. Enfin, en tout cas, c'est souvent compliqué de parler avec le masque. Donc, il ne faut pas imaginer non plus que c'est au sens littéral la barrière anti-virus. Parce que, attention, il ne faut pas retomber dans l'autre fantasme qui va être d'expliquer que si on a un masque, tout fonctionne.
Oui, tout va aller bien, non, bien sûr.
Bien qu'on va se garder qu'on va se garder pendant une semaine. Parce que l'annonce, par exemple, de la maire de Paris, on va avoir 2 millions de masques, mais 2 millions de masques, prenez uniquement, par exemple, les commerçants qui sont en situation de risque et qui pourraient mettre en situation de risque leurs clients. C'est pas avec 2 millions de masques qu'on peut tenir bien longtemps. Je ne parle même pas de
le
personnel soignant, on y faisait allusion tout à l'heure dans les EHPAD, qui n'ont même pas leurs 2 masques par jour. Bon, ouais. Donc cela reste la priorité absolue.
Oui. Alors on voit des appels de soignants qui disent dans les hôpitaux, dans l'hôpital de Seine-Saint-Denis, qui dit on n'a plus de blouse, on n'a plus de masque, on n'a rien, on n'a pas de charlotte. Donc on est quand même dans une situation sanitaire qui est absolument lamentable. Je sais pas qui veut réagir.
Oui, je pense quand même que c'est le moment d'opposer deux systèmes qui sont en plein naufrage, qui sont le système français et anglais, face au système allemand qui, lui, parvient à gérer cette crise dans des conditions qui sont objectivement exemplaires. Et je retiens qu'aujourd'hui, les systèmes de santé publique en France, en Grande-Bretagne, sont incapables de faire face à la situation dans des conditions correctes. L'Allemagne, qui a privatisé ses hôpitaux depuis 15 ans, l'Allemagne qui a mis son système de sécurité sociale en concurrence depuis 25 ans, elle est capable d'avoir le meilleur système de santé du monde. Donc je crois qu'il faut retenir de cette crise, de ce naufrage public, une réalité. C'est que les États ne sont pas capables de gérer des systèmes de santé et qu'ils doivent le confier à des gens dont c'est le métier. L'Allemagne en fait la preuve et la démonstration.
Ça, c'est de l'idéologie, je suis désolé de le dire.
Mais d'accord, j'attendais.
Laissez-moi aller jusqu'au bout. Le problème, c'est pas ça. C'est pas vrai que l'hôpital français aujourd'hui fait pas face. Il fait face de manière extraordinaire, mais il fait face à un afflux qui, lui, par contre, n'a pas été jugulé en amont. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? C'est pas que les gens sont mieux traités à l'hôpital. C'est qu'il y en a infiniment moins. Et pourquoi il y en a-t-il infiniment moins? Parce que le gouvernement allemand, et des fois ça m'écorche de le dire, a pris les bonnes mesures, contrairement à nous, en temps et en heure. Ces gens ont fait des tests, comme des tests routier pour détecter le coronavirus. Mais enfin, il y a 500 000 tests par semaine depuis des semaines en Allemagne. Nous, on en était encore il y a quelques jours à 5 000 tests par jour. Donc voilà, à un moment donné, ces gens ont réussi à gagner du temps et à amener la chaîne de contamination à un niveau tel qu'il avait sa prise en charge possible par le système de santé. Nous, ce n'est pas le cas. Oui. Et pourtant, vous voyez, la force de l'hôpital français et de ses soignants, c'est que malgré tout, ils arrivent à tenir le coup.
Absolument. Alexandre Malafaï ?
Non, non, mais la comparaison avec l'Allemagne est de façon très intéressante. Il y avait une configuration de pays qui était prêt à assumer un choc sanitaire, ce qui n'était pas notre cas. Nous, on a géré le monde de la santé, les hôpitaux ont été gérés comme des hôtels, c'est-à-dire qu'on a géré des flux, on a adapté le modèle en fonction des flux sans tenir compte des crises. Et puis on est la victime d'une politique ou d'un système de gestion en fait avec la RGPD, avec les techniques de gestion qui ont été développées depuis une quinzaine d'années, où le primat qui l'emporte c'est celui de la gestion et de la rationalité. Alors c'est vrai qu'on est obligé de gérer. On a tous dit qu'il fallait respecter un certain nombre de règles et c'est vrai qu'on peut pas creuser en théorie quand tout va bien dans une logique un peu vertueuse. On peut pas en passer son temps à creuser des déficits et à dépenser un argent qu'on n'a pas. Bon, c'est ce qui nous a aussi fait beaucoup de tort depuis 30 ans. Donc c'est vrai que cette logique de bonne gestion était évidemment pertinente, mais il fallait la coupler avec une prise en compte des réalités, parce que là encore, le risque pandémique, pardon, il est présent et parfaitement bien décrit dans les trois derniers livres blancs de la défense et de la sécurité nationale. Ça veut dire que jusqu'en 2013, dans un document sur lequel on mobilisait les meilleurs experts français pour dire qu'est-ce qui nous menace, et bien sûr sur un plan terroriste, mais pas que, vous avez à chaque fois un couplet sérieux sur la partie risque pandémique. Et la réponse à ça, c'est quoi? C'est la destruction des masques. C'est là où on se dit, attendez, ça sert à quoi d'avoir des gens qui vous disent des choses? Ça sert à quoi qui est encore quelques semaines face à monsieur, face à monsieur Véran, le professeur Combes, qui face à monsieur Véran, nous disait, mais attendez, regardez le modèle, c'est le modèle italien, c'est ça qui va nous arriver chez vous. Et donc, au moment où il disait ça, on disait, mais non, le professeur Bricaire dit, mais non, il n'y a pas de risque, tout va bien, le modèle italien, c'est le modèle italien, nous, c'est la France. On a vu la suite. Cette impréparation du système à une gestion de crise doit être, à mon avis, le principal retour d'expérience qu'on devra conduire dans les prochains mois.
Nous ne sommes pas au pic épidémique, nous sommes encore en phase d'aggravation, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé. C'est également le message qu'a passé tout à l'heure le professeur Combes, chef du service réanimation de la Pitié-Salpêtrière. Il a conjuré les Français de rester chez eux, il a dit que la situation était encore très grave. Je rappelle qu'il y a des patients qui ont entre 40 et 60 ans qui sont dans des états extrêmement graves, donc ça n'arrive pas qu'aux vieux, qu'aux personnes âgées, qu'aux gens fragiles. Restez chez vous, c'est vraiment le message que font passer les soignants aujourd'hui. Merci à tous les quatre. On n'a pas eu le temps d'évoquer tous les sujets, mais je pense que André Bercoff va prendre la suite avec beaucoup d'énergie. Bonne journée à tous. Merci à vous. On se retrouve demain à 10h. Très